Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. Jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons maintenant le chapitre 5 de Saint Luc. Donc sur le polycopier qui contient les textes des Pères de l'Église pour les chapitres 1 à 5 à la page 40. Voyons d'abord les trois premiers versets. Or il arriva, tandis que les foules se précipitaient sur lui pour entendre la parole de Dieu, qu'il était lui-même au bord du lac de Génézareth. Et il vit des barques arrêtées au bord du lac. Les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Les montant dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de la terre et s'étant assis, il enseignait les foules de dessus la barque. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va prendre parmi ses premiers disciples surtout des pêcheurs, des gens simples, qui ont les pieds sur la terre. Il ne faut pas du tout prendre les apôtres comme des gens un peu simplistes. Simples, oui, simplistes, non. Ils n'étaient pas du tout bêtes, ils étaient intelligents. Mais c'était des gens qui n'avaient pas forcément une grande culture générale. Mais par contre, ils avaient le bon sens, ils avaient surtout un grand amour du bon Dieu, et ils vont attraper, ils vont accepter, ils vont recevoir par notre Seigneur Jésus-Christ une grande culture. Alors, ces poissons, donc, qui sont le but du travail des pêcheurs, ces poissons, ils viennent de l'abîme. Et ça représente, nous disent les pères, les hommes qui nagent, pour ainsi dire, au milieu des choses inconstantes et mobiles, et parmi les violentes tempêtes de cette vie. Donc derrière les pêcheurs, il y a l'homme. L'homme perdu dans le monde moderne qui cherche à trouver un moyen de survivre. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ va attraper les poissons, spirituellement parlant, et là il va faire ce que font tous les pêcheurs. Il va faire le tri. Il va garder les poissons qu'il veut garder, il va au contraire rejeter à la mer ceux dont il n'a pas besoin. Alors il y a d'autres allégories, d'autres explications qui sont données par les pères. Allégoriquement, c'est-à-dire que le texte de l'Écriture sainte va représenter, expliquer quelque chose d'autre. Souvent c'est un texte de l'Ancien Testament qui va représenter quelque chose pour le Nouveau Testament. Allégoriquement, donc ces deux barques figurent les juifs et les gentils. Les gentils, c'est les non-juifs. Le Seigneur vient les voir toutes deux parce qu'il connaît dans chaque peuple ceux qui sont à lui. Et en les voyant près du rivage, c'est-à-dire en les visitant dans sa miséricorde, il les conduit aux portes tranquilles de la vie éternelle. Donc souvent, la mer dans laquelle nagent les poissons, c'est-à-dire les hommes, représente le temps présent dans lequel nous vivons. Et de même que le bateau va traverser la mer pour atteindre le port, éviter les obstacles qu'il peut rencontrer dans son voyage, de la même façon, l'homme vise aussi un port. Ce port, c'est le salut éternel. Mais il va y avoir dans la mer toute une série d'obstacles qu'on va retrouver dans la vie spirituelle. Puisque cette traversée du bateau représente la traversée spirituelle. Le bateau va devoir éviter les récifs, les courants, les tempêtes, les pirates, et tout ça représente quelque chose. On le voit très bien chez les pères de l'Église, qui expliquent très bien que justement cette traversée dans ce monde moderne pour arriver au port du salut, à savoir le paradis, n'est pas sans risque, parce que le démon va s'en mêler, le monde va s'en mêler, la chair va s'en mêler, notre volonté propre va s'en mêler, et le démon va tout faire pour attaquer le bateau. Et jeter par-dessus bord la cargaison la plus précieuse d'un bateau, spirituellement parlant, c'est l'état de grâce. Donc le démon va tout faire pour précipiter les bateaux dans les récifs, dans les courants, dans les tempêtes, dans les mains des pirates, pour que la cargaison soit perdue et que donc le bateau en question n'atteigne jamais le but de son voyage, à savoir le paradis. Donc, de la même façon que bon Dieu, le pécheur, pardon, va prendre dans son filet toutes sortes de poissons, de la même façon, Dieu cherche tous les hommes. Sa volonté antécédente est de sauver tous les hommes. Même si de volonté conséquente, il m'a sauvé que ceux qui meurent en état de grâce. Et donc, les deux barques, c'est le verset 2, il vit deux barques arrêtées au bord du lac. Donc, ces deux barques représente les juifs et les gentils, c'est-à-dire l'intégralité des hommes à évangéliser. Alors, autre signification, cette fois-ci pour les docteurs de l'Église, les pêcheurs, qui sont les docteurs de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Il y a les poissons, ce sont les hommes en général, et les pêcheurs, ce sont les docteurs de l'Église. Au sens large, ce sont les prêtres, qui vont attraper dans les filets de la foi les différents poissons, pour les amener au rivage de la terre des vivants, c'est-à-dire à la porte du paradis. Voilà ce que disent les pères. Ces filets, tantôt les pêcheurs les jettent pour pêcher, tantôt ils les plient après les avoir lavés, parce qu'en effet, tous les temps ne sont pas également propres à la prédication. Et le docteur doit tantôt se livrer à l'enseignement, tantôt s'occuper de lui-même et prendre soin de son âme. Mais ces pêcheurs, donc, sont les docteurs de l'Église qui nous prennent dans les filets de la foi et nous amènent au rivage de la terre des vivants. Rappelez-vous la grande formule de saint Thomas d'Aquin, Nemo dat quod non habet. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Et donc, si on n'est pas rempli soi-même de doctrine, on ne peut rien donner aux autres. Rappelez-vous la formule de saint Bernard qui est très belle, qui explique bien les choses. Avant d'être canal, soyons réservoir. Et plus nous avons à donner, plus il faut d'abord avoir à donner. Puis il faut remplir son âme des choses que nous allons après distiller aux gens qui vont nous écouter par la prédication. Et donc, il faut commencer par avoir une vie contemplative avant d'avoir une vie active. La contemplation correspond justement au fait que le pécheur, le docteur, doit prendre soin de son âme, disent les pères. Mais cette contemplation va mener à l'action, c'est-à-dire à la prédication elle-même. Donc la barque a toujours été un symbole de l'Église. Rappelez-vous le terme, la barque de Saint-Pierre. Et ici, dans le texte, la barque de Simon, c'est l'Église primitive, parce que Simon-Pierre va devenir le premier pape. Donc c'est l'Église du début. Le Christ monte dans une seule de ces deux barques, parce que la multitude de ceux qui croyaient n'avoir qu'un cœur et qu'une âme. Parce que la multitude de ceux qui croyaient, pardon, n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. De cette barque, il a enseigné les foules, car c'est par l'autorité de l'Église que Pierre instruit les nations. Donc la barque représente l'Église, et notre Seigneur Jésus-Christ monte dans la barque, à tête de la barque, pour enseigner les foules, pour bien montrer qu'il est le fondateur de cette Église, qu'il est en train de fonder en fait. L'Église n'est pas encore complètement fondée, puisque la papauté ne va être instituée strictement parlant qu'après la résurrection, au moment de l'appel de Saint-Pierre, quand notre Seigneur Jésus-Christ, après la résurrection, après la dernière pêche miraculeuse, va attirer Saint-Pierre à lui, va lui dire: Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que cela? Et par sa triple profession de foi, Saint-Pierre va rattraper son triple reniement, et c'est là vraiment le début de l'Église. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ enseigne les foules depuis la barque pour bien montrer que les évêques, c'est-à-dire strictement parlant, ce sont les évêques qui forment ce qu'on appelle l'Église enseignante, ce sont les évêques qui sont les pêcheurs et qui vont prendre les poissons, qui jettent les filets pour prendre les poissons. Donc les pêcheurs représentent les évêques, et d'abord l'évêque le plus important, à savoir Saint-Pierre, et les filets sont jetés à la mer pour attraper les poissons, c'est-à-dire les différentes âmes, et les amener au paradis. Le Seigneur, en montant dans cette barque, prie donc son disciple de s'éloigner un peu de la terre pour nous apprendre qu'il faut parler au peuple un langage plein de modération et de réserve. Il ne faut pas lui prêcher une doctrine terrestre, mais il faut se garder également de trop s'éloigner de la terre pour le jeter dans les profondeurs insondables des mystères. Il faut de l'équilibre. Et donc, encore une fois, il faut être réservoir avant d'être canal. Donc, le prêtre doit, si vous voulez, un peu faire comme une vache. Je connaissais un vieux prêtre qui prenait ça comme image, c'était très vrai. Il disait, la vache, après avoir brouté, elle va s'asseoir, elle va rebrouter dans son estomac, elle va ramener tout le contenu de son bol alimentaire dans sa bouche pour remâcher de nouveau tout ça afin de pouvoir l'assimiler complètement. C'est la même chose avec la vie spirituelle. Il faut assimiler les choses doucement. On ne peut pas tout attendre, tout apprendre d'un seul coup. C'est un peu le problème que nous rencontrons souvent avec les convertis qui doivent d'un seul coup, si vous voulez, comprendre toute une série de choses que normalement un enfant, un adulte catholique qui a été élevé comme catholique depuis sa naissance va apprendre au cours d'une vingtaine d'années dans la vie catholique familiale. Un adulte qui s'est converti quand il avait 20 ou 30 ans va devoir apprendre tout ça d'un seul coup. Et donc il faut garder une certaine prudence pour enseigner tout cela aux gens, pour ne pas prêcher des choses trop déconnectées du réel. C'est qu'il faut, comme on dit, garder les deux pieds sur la terre. Ça, c'est la doctrine, c'est la doctrine d'ici-bas. Mais il faut en même temps garder la tête tournée vers le ciel. C'est la doctrine céleste. Mais on ne peut pas prêcher uniquement la tête sans se rappeler que les pieds doivent être sur la terre. Donc, il faut faire un petit peu attention à la façon de prêcher, de ne pas prêcher de façon à ce que de ne pas prêcher de telle manière que les auditeurs ne puissent pas comprendre ce qu'on explique. Mais il faut tenir compte des gens qui en parlent. C'était Saint Alphonse de Ligorie, fondateur des Rédemptoristes, qui exigeait de ces jeunes prêtres que quand ils prêchaient, qu'ils puissent être compris dans leur sermon par la personne la plus simple qui assistait à la Sainte Messe. Et quand il voyait que ses prêtres tombaient dans le travers de l'époque, savoir de commencer à utiliser un style fleuri, très, très, très châtié et incompréhensible par le commun des mortels, il le faisait descendre de chair et il prenait sa place pour bien montrer qu'il ne voulait pas que ses prêtres tombent dans le panneau de prêcher justement une manière adresser simplement une extrême élite capable de les comprendre. J'ai connu des prêtres comme ça, c'était terrible parce que malgré, ce n'était pas la mauvaise volonté, mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils utilisaient un français absolument incompréhensible pour ceux qui l'écoutent. J'ai connu un prêtre qui était un excellent prêtre, sur des tas de choses, mais qui parlait le français de Bossuet, dans ses sermons. Il prêchait vraiment comme Bossuet. C'est très beau Bossuet, mais Bossuet, le français de Bossuet est très difficilement compréhensible par le commun des mortels, par quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'éducation. Et donc, il faut faire attention dans sa façon de prêcher, de telle façon que les personnes à qui nous prêchons puissent comprendre ce que nous disons, ce que nous leur disons, sinon on perd son temps. Et on le voit très bien chez notre Seigneur Jésus-Christ, donc il parlait justement, disent les pères, un langage plein de modération et de réserve. Il y avait une simplicité chez notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il va prendre parmi ses premiers apôtres, ses premiers disciples, des gens tout simples. Il ne va pas chercher l'élite de la société, il va chercher les pêcheurs de poissons. Versets 4 et 5, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Poussez au large et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondant dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur votre parole, je jetterai le filet. » Donc par ce miracle de la multiplication des poissons, de la pêche miraculeuse, donc notre Seigneur Jésus-Christ va prouver déjà sa divinité et aider les apôtres à accepter son appel. Il faut se mettre à la place de ces apôtres. Certains de ces apôtres vont suivre notre Seigneur Jésus-Christ absolument sans le connaître. C'est assez extraordinaire qu'on suive notre Seigneur Jésus-Christ après l'avoir vu faire des miracles extraordinaires, ça se comprend. Mais quand on voit un Saint Matthieu qui rencontre notre Seigneur Jésus-Christ sans doute pour la première fois, à sa table de changeur, notre Seigneur Jésus-Christ lui dit « Viens, suis-moi », et Saint Matthieu se lève et suit, c'est extraordinaire. Ça demande une confiance en Dieu que nous n'avons pas. Les pères insistent Notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est la page 40 sur le polycopier, Notre Seigneur Jésus-Christ s'accommode aux dispositions comme aux diverses occupations des hommes. C'est par une étoile qu'il avait appelé les mages, et c'est par le métier de la pêche qu'il appelle à lui les pêcheurs. Les mages faisaient partie de l'élite intellectuelle de la société de Perse ou d'Arabie, là où ils habitaient. Et ils avaient une grande culture, et c'était des astronomes en plus qui étudiaient les étoiles. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ va se mettre à leur niveau, qui est assez élevé, et donc il va leur montrer une étoile pour les amener à lui. Au contraire, il ne va pas montrer une étoile à des pêcheurs de poissons qui ne connaissent rien à l'astronomie. Et avec les pêcheurs de poissons, donc, il va prendre une autre image. C'est pour ça qu'il va pratiquer ce miracle extraordinaire de la multiplication des poissons, la pêche miraculeuse. Donc la barque de pierre remplie de poissons figure l'Église, allégoriquement, jouait des flots à son origine et dans la suite se réjouissant de la multitude innombrable de ses enfants. Les pères font remarquer que la barque qui porte Saint-Pierre n'est point agitée, mais celle qui portait Judas est ballottée par les flots. Ça, c'est pas dans le texte de l'Évangile, mais c'est dans le texte des pères de l'Église. On voit la charité de notre Seigneur Jésus-Christ qui va condescendre à se mettre au niveau des personnes à qui il parle. Il sait que les pêcheurs, ici Saint-Pierre et son équipe, ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Eh bien, il va les récompenser de l'acte de foi qu'ils vont devoir commettre. Parce que, encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ va leur dire « Poussez au large, jetez vos filets pour pêcher. » Seulement, on va répondre « Mais nous avons travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Cependant, je jetterai mes filets. » Donc, il y a un esprit d'humilité, d'obéissance de Saint-Pierre par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ qui est admirable. Autre témoignage des pères en bas de la page 40. Gardons-nous donc de toute société avec les traîtres. Il n'en faut qu'un seul pour nous jeter dans l'agitation et le trouble. Là, au contraire, où la charité est parfaite, il y a pleine et entière sécurité. Avancer en pleine mer, c'est-à-dire dans la profondeur des controverses. Qu'y a-t-il de plus profond que la connaissance du Fils de Dieu ? Les instruments dont se servent les apôtres pour cette pêche spirituelle sont justement comparés à des filets qui ne tuent point ceux qui s'y prennent, mais les tiennent en réserve et qui les retirent des flots agités pour les transporter jusque dans les cieux. Donc encore une fois, ici, on voit que les pères de l'Église expliquent que les pêcheurs vont faire un tri dans les poissons. Ils ne mettent pas tous les poissons au même niveau, parce que toutes les âmes, chaque âme est différente. Il y a des âmes qui vont être conservées par notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas tout le monde. On le voit très bien, après un des miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, la personne qui vient d'être guérie miraculeusement par notre Seigneur Jésus-Christ demande à rester avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il fait partie de ses apôtres, de ses disciples. Et notre Seigneur Jésus-Christ de refuser, de renvoyer dans sa famille. Non, rentrez chez les vôtres, rentrez dans votre famille et annoncez à tous les merveilles que Dieu a faites pour vous. Voyez ? Donc on voit bien que notre Seigneur Jésus-Christ ne considère pas toutes les âmes comme identiques. Chaque âme est différente. Une fois de plus, on voit ici que l'égalité n'existe pas pour notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque âme est différente. Il y a une beauté d'âme extraordinaire chez chacun d'entre nous, parce qu'il y a une participation à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ dans chaque âme. C'est pour ça que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est quoi ? Quelle est l'image de Dieu en nous ? L'image de Dieu en nous, c'est l'âme, cette substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu, de le connaître et de le posséder. Donc tous les hommes ont une âme. Donc il y a déjà quelque chose d'extraordinaire dans chaque homme, quelle que soit la couleur de sa peau, qu'il soit blanc ou noir ou rouge ou vert ou je ne sais quoi, ou jaune. Chaque homme a une âme et à cause de ça, a la possibilité, la puissance en lui de faire rentrer notre Seigneur Jésus-Christ dans son âme. Donc tout homme, plus exactement, est créé à l'image de Dieu, mais il a la puissance d'être créé aussi à la ressemblance de Dieu. Tous les hommes sont créés à l'image de Dieu, certains vont être créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu, c'est quoi ? C'est une étincelle divine supplémentaire qui vient se rajouter, extraordinaire, à savoir l'état de grâce. Donc tous les hommes ont une âme, tous les hommes ont une intelligence capable de connaître Dieu, une volonté capable de le posséder,
Mais dans la pratique, tous les hommes ne vont pas posséder Dieu. Comme le dit saint Thomas d'Aquin, malheureusement, il n'y a qu'un petit nombre de gens, après une grande période de temps, avec un grand risque de mélange d'erreurs, avec un certain nombre de gens qui vont atteindre Dieu. Dieu se présente à tous, mais tous ne vont pas le posséder parce que chaque âme, encore une fois, est différente. Et donc, les pêcheurs vont trier les poissons, garder ce qu'ils veulent garder et remettre à la mer ceux dont ils n'ont pas besoin. Page 41, en haut de la page. Les filets se rompaient et les barques étaient remplies de cette quantité de poissons au point qu'elles étaient prêtes de couler à fond. Cela figure cette multitude d'hommes charnels qui devaient abonder un jour dans l'Église au point de rompre la paix, de déchirer l'Église par les hérésies et par le schisme. Le filet se rompt, mais le poisson ne s'échappe pas, parce que le Seigneur conserve les siens au milieu des scandales de ceux qui le persécutent. Il y a de belles images ici expliquées par les pères. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le filet, c'est le symbole de la volonté divine de rassembler tous les hommes dans sa barque. L'unique barque du salut, l'unique arche de salut, l'Église catholique, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. Mais les schismatiques, les hérétiques, sont des gens qui vont essayer de déchirer le filet pour empêcher les âmes qui ont été prises dans le filet de terminer leur course dans la barque de l'Église catholique. Donc ils vont chercher à ouvrir le filet, à rompre le filet, à déchirer le filet par leurs hérésies, par leurs schismes, afin que les poissons puissent s'échapper. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, disent les pères, conserve les siens malgré les scandales de ceux qui le persécutent. Notez que les pères disent que le Seigneur conserve les siens. Mais sous-entendu, il y en a qu'il ne va pas conserver parce que ce ne sont pas ceux qui appartiennent à notre Seigneur Jésus-Christ. De volonté antécédente, une fois de plus, notre Seigneur veut sauver tous les hommes, et dans la pratique, de volonté conséquente, Dieu ne va sauver que ceux qui acceptent de mettre notre Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur, qui acceptent de s'unir à lui par la vertu de charité. Nous pouvons encore voir dans cette seconde barque la figure d'une autre église. Car l'Église de Jésus-Christ, qui est une, se divise en plusieurs églises particulières. Les barques sont submergées lorsque les hommes que Dieu avait retirés du siècle par la vocation à la foi, ils sont de nouveau entraînés par la corruption des mœurs. Donc malheureusement, quelqu'un peut être monté dans la barque de Saint-Pierre, dans la barque de l'Église catholique, et hélas, être tenté de sauter du bateau pour rejoindre le monde dans lequel il était auparavant. C'est triste, mais c'est des choses qui malheureusement arrivent. La corruption des mœurs va attirer les âmes, c'est un petit peu comme une sirène qui va essayer d'attirer les marins sur les récifs, et donc il va y avoir des gens qui vont être, des âmes qui vont être tentées de retrouver le vomi de leur vie passée, hélas. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui respecte la volonté humaine, va respecter cette volonté de le quitter. Alors, il y a parfois des gens qui vont quitter l'Église, y revenir, la requitter de nouveau, y revenir. Parce que Dieu est plein de miséricorde et donne ses grâces à ceux qui, après l'avoir quitté, cherchent à le rejoindre, à le retrouver. Versets 5, 6 et 7, pardon, du chapitre 5 de Saint-Luc. Lorsqu'ils eurent jeté le filet, ils prirent une si grande quantité de poissons que leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles étaient presque submergées. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Les pères font remarquer que cette pêche miraculeuse qui va prouver aux apôtres que notre Seigneur Jésus-Christ à une autorité divine, à un pouvoir divin, et qu'il est Dieu, cette pêche miraculeuse est donc la récompense de l'obéissance. C'est parce que Simon, malgré les apparences, bien qu'il ne connaisse, que ne sait pas à ce moment-là notre Seigneur Jésus-Christ, peut-être accepte de suivre son conseil, pousser au large et jeter vos filets pour pêcher, Simon aurait pu se révolter contre cet individu qu'il ne connaît pas et qui peut-être n'y connaît rien à la pêche. Eh bien, notre Seigneur de demander, jetez votre filet pour pêcher. Saint-Pierre obéit et la récompense est la pêche miraculeuse. Je vous ai choisi pour être mes disciples. Ne prenez pas comme excuse le fait que vous devez travailler comme pêcheurs. Apprenez aussi de ce miracle que deviendrez bientôt des pêcheurs d'hommes efficaces. Et notre Seigneur va leur dire, ce sera au verset 10, « Désormais, ce sont des hommes que vous prendrez. » Donc, on voit comment notre Seigneur Jésus-Christ va montrer le chemin à Saint-Pierre. Il va prendre Saint-Pierre là où il est, le monter vers lui. Donc c'est le verset, ce que j'en suis. Voilà, la pêche miraculeuse est la récompense de l'obéissance. Donc au verset 6 et 7. Je vous ai choisi pour être mes disciples, ne prenez pas comme excuse le fait que vous devez travailler comme pêcheur. Apprenez aussi de moi, apprenez de ce miracle que vous deviendrez aussi des pêcheurs d'hommes. Notre Seigneur va transformer des pêcheurs de poissons en pêcheurs d'hommes. Parce qu'il va falloir qu'il lance d'autres filets pour les amener dans une autre barque, qui est la barque de l'Église catholique, qui va voguer sur une autre mer, qui est la mer du monde, dans laquelle il va falloir attraper le plus de poissons possible. Versets 8 et 9. « Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, retirez-vous de moi, car je suis un pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, et aussi tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche des poissons qu'ils avaient faite. Donc ils sont un petit peu paniqués, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont devant eux un homme qui a un pouvoir extraordinaire. Ils n'ont pas encore compris, certainement pas encore, sa divinité, mais ils se rendent compte qu'ils ne sont pas devant un homme ordinaire. Et cela les panique complètement. Donc allégoriquement, quand Simon-Pierre dit « Seigneur, éloignez-vous de moi », voilà comment expliquent les pères de l'Église. Pierre refuse de reconnaître que ce qu'il prend dans les filets de son enseignement soit sa conquête et son butin. Vous aussi, n'hésitez pas à renvoyer à Dieu le bien qui est en vous, puisque c'est Dieu qui vous communique ses propres dons. Donc tout ce qui est de bon en moi vient de Dieu et tout ce qui est mauvais en moi vient de moi-même. Donc Saint-Pierre se rend compte que cette pêche miraculeuse, c'est le bon Dieu qui l'a fait, c'est pas lui. Lui était simplement l'instrument, on lui a dit de jeter les filets, il l'a fait, et il obtient une grande quantité de poissons, tel point que les filets se rompaient, qu'il est obligé de faire signe à ses compagnons qui étaient dans l'autre barque pour leur demander de venir les aider. Et les deux barques, l'évangéliste Saint-Luc, les deux barques sont remplies à tel point qu'elles étaient presque submergées. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ leur donne un message en disant, vous voyez, les poissons m'obéissent. Les créatures déraisonnables, sans raison, m'obéissent. Eh bien, vous allez apprendre l'obéissance et vous allez faire une pêche encore plus extraordinaire parce que, au lieu de pêcher des poissons, vous allez pêcher des hommes. Vous allez pêcher des âmes et vous allez devoir amener ces âmes vers le bon Dieu. Donc, vous aussi, n'hésitez pas à renvoyer à Dieu le bien qui est en vous, de ne pas s'accaparer les grâces du bon Dieu. Les grâces du bon Dieu ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes que des dépositaires. Et après avoir fait tout ce que nous devions faire, il nous faut savoir dire, comme Saint-Pierre, « Seigneur, éloignez-vous de moi, pardonnez-moi, parce que je suis un pauvre pécheur. » Et se rappeler que nous sommes des serviteurs inutiles. En quittant tout, les disciples figurent la fin des temps où ceux qui seront attachés à Jésus-Christ quitteront pour toujours la mer agitée du monde. On voit là la foi extraordinaire déjà des apôtres qui, bien qu'ils ne connaissent pas encore notre Seigneur Jésus-Christ, sont subjugués par sa divinité qui transparaît à travers son humanité, qui voit ce miracle extraordinaire, cette pêche miraculeuse, et qui lâche tout pour le suivre. De même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon, eux aussi sont épouvantés. Alors Jésus dit à Simon, ne craignez point, désormais ce sont des hommes que vous prendrez. Ayant ramené les barques à terre, ils quittèrent tout et le suivirent. On voit que notre Seigneur s'adresse d'abord à Simon. Pourtant, Simon n'est pas encore le pape, mais il est déjà celui qui sera le premier parmi les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette phrase extraordinaire. Ayant ramené les barques à terre, ils quittèrent tout et le suivirent. Donc ils abandonnent d'un seul coup leur moyen de subsistance, ils abandonnent leur profession, ils abandonnent leur famille, ils abandonnent tout ce qu'ils ont pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le signe de la vocation. Lorsque le bon Dieu appelle, il donne les moyens de répondre à son appel. Pourtant, c'est difficilement compréhensible humainement parlant. D'après la tradition, tous les apôtres étaient mariés. Ils avaient femme et enfants. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ va demander quelque chose d'extraordinaire. Il va leur demander de tout quitter pour les suivre. Tout quitter, ça veut dire non seulement le métier de pêcheur, mais également la femme, les enfants. Bon, c'est pas expliqué dans l'Évangile. Certainement que Dieu avait prévu un moyen de subsistance pour cette femme et ses enfants. Est-ce que Saint-Pierre a complètement quitté sa famille, où il retournait de temps en temps? On sait qu'il a revu sa femme, il revoyait sa fille, mais Saint-Pierre va tout quitter pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire tout quitter, peut-être il faut traduire ça comme ça, ils quittèrent tout, ça veut dire quitter tout ce qui est pour nous un obstacle à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ dans mon âme. Donc j'ai le droit de m'attacher à toutes les créatures tant que les créatures autour de moi m'aident à atteindre notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si ces créatures sont pour moi un obstacle, il faut que je coupe. Eh bien donc, il faut quitter tout ce qui me freine dans la montée vers le bon Dieu. Donc de même que le poisson n'est pas blessé par le filet, de même vous attraperez les hommes non par la violence, disent les pères, mais par le pouvoir et l'opération du Saint-Esprit. Notez que notre Seigneur Jésus-Christ n'oblige pas, physiquement parlant, les apôtres à le suivre. Ne craignez pas, désormais ce sont des hommes que vous prendrez. Venez et suivez-moi. Et c'est donc librement, tout en étant coopté en quelque sorte par la grâce du bon Dieu, c'est librement que les apôtres vont suivre notre Seigneur Jésus-Christ. On ne tue pas notre Seigneur Jésus-Christ contraint forcé. Quelqu'un qui voudrait rentrer dans un séminaire, suivre la vocation, parce qu'ici c'est de la vocation dont il est parlé, quelqu'un qui voudrait rentrer dans un séminaire, mais contraint et forcé par sa famille, sans qu'il ait vraiment la volonté personnelle de se donner à notre Seigneur Jésus-Christ, n'a rien à faire dans un séminaire. Il y a même, si mes souvenirs sont exacts, des peines d'excommunication pour les familles qui obligent les enfants à suivre la vie religieuse alors qu'ils ne sont pas appelés. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, en disant à Simon-Pierre, ne craignez point, désormais ce sont des hommes que vous prendrez, il explique qu'il va maintenant donner la vie aux hommes pour les rappeler à la vie, les ressuscitant de la mort au péché pour les conduire à la vie dans la vérité. De même que les poissons meurent hors de l'eau, les hommes pris par les disciples vont mourir au péché. Donc on quitte la mer pour monter dans la barque. On quitte les occasions de péché du monde, le péché du monde, pour entrer dans un monde où règne la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Donc la mer représente le monde avec ses scandales, c'est-à-dire la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair, l'orgueil. L'Église catholique, représentée par la barque, c'est le lieu dans lequel il y a la paix. Non seulement les commandements de Dieu y sont suivis, mais en plus les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Donc il s'agit, puisque nous sommes pris par notre Seigneur Jésus-Christ, première condition, c'est mourir à notre vie passée. Mourir au péché. Donc, de même que le poisson est assimilé par celui qui s'en nourrit, de même ceux qui sont pris dans le filet de l'Église deviennent les vrais membres du Christ. Nous allons devenir, je dirais littéralement, fils adoptif de Dieu. Nous allons littéralement participer directement à sa nature. Sa nature humaine et aussi sa nature divine par l'état de grâce. Donc les pères expliquent, page 42 en haut de la page. Le bateau de Saint-Pierre, c'est l'Église. Le pilote est le prince des apôtres. Les martyrs, comme les poissons, sont pris par l'hameçon, le corps des fidèles par le filet. Hein? Donc le bateau de Saint-Pierre, c'est l'Église catholique. Le pilote, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, mais il va déléguer en quelque sorte son autorité à un second pilote, un copilote qui va devenir le prince des apôtres, Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre, strictement parlant, n'est pas le grand pilote, il est le délégué, il est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ ne fait rien par lui-même. Son rôle n'est pas de tout changer dans la foi catholique, mais de garder le dépôt de la foi. Et en fait, le pilote de la barque, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui se cache derrière un pilote humain. Donc les martyrs, comme les poissons, sont pris par l'hameçon. Donc l'hameçon va tirer le poisson hors de l'eau Et il va finir grillé sur le feu, c'est le symbole du martyr, qui après avoir quitté la mer du monde pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, va donner sa vie pour notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, les autres fidèles, en général, sont pris par le filet dans leur ensemble, non pas par l'hameçon individuellement. Les filets sont les moyens utilisés par les apôtres pour attraper les hommes, car le filet attrape sans détruire et ramène à la surface ce qui était caché en dessous. Avançons avec les versets 12 à 19. Comme il était dans une des villes, voici qu'un homme couvert de lèpre, voyant Jésus, se prosterna la face contre terre et le priant en disant, « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Jésus, étendant la main, le toucha et dit, « Je le veux, soyez guéri. » Et au même instant, la lèpre le quitta et lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, « Allez, montrez-vous au prêtre et offrez pour votre guérison ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Cependant, sa renommée se répandait de plus en plus, et des foules nombreuses venaient pour l'entendre et pour être guéries de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans le désert et priait. Il arriva qu'un jour, il était assis et enseignait, et des pharisiens et des docteurs de la loi, qui étaient venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, étaient assis auprès de lui, et la puissance du Seigneur agissait pour opérer des guérisons. Et voici que des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient le faire entrer et le déposer devant Jésus. Mais ne trouvant point par où le faire entrer à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par les tuiles, ils le descendirent avec le lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Ici, on voit donc la générosité d'un certain nombre de gens qui reconnaissent tout de suite le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, la plupart d'entre eux vont venir chercher notre Seigneur Jésus-Christ pour obtenir une guérison purement physique. Ici, on parle d'un paralytique, on parle d'un lépreux. Mais derrière ces guérisons physiques, il y a des guérisons spirituelles qui sont bien plus grandes. La lèpre représente le péché mortel. La lèpre tue, mais elle ne va pas envahir le corps d'un seul coup. De même, on ne va pas tomber dans le péché mortel de vice enraciné d'un seul coup. Ça va prendre un certain temps. Le paralytique, c'est le symbole de celui qui ne sait plus se lever pour aller au confessionnal. Il n'a plus le courage. Donc il est comme paralysé, paralysé par l'aspect humain, paralysé par le démon qui l'empêche de venir chercher son réconfort auprès de celui qui a le pouvoir de le guérir. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église. L'évangéliste ne désigne pas d'une manière précise le lieu où ce lépreux fut guéri. Pour nous apprendre que ce ne fut pas le peuple particulier d'une seule ville, mais tous les peuples de la terre qui eurent part à la guérison spirituelle de l'âme. Cependant, Jésus au début, notre Seigneur au début, va d'abord aller chercher aller parler uniquement aux gens de Palestine. Et puis ensuite, il enverra ses disciples à l'extérieur. Mais lui-même ne quittera pas la Palestine. Il va rester en Judée, en Samarie, en Galilée. Il ne va pas partir à l'extérieur. Mais ce sont ses apôtres, surtout avec saint Paul, qui vont, eux, partir à la conquête du monde. Notre Seigneur dit, « Je veux », c'est le verset 13, il le toucha et dit, « Je le veux, soyez guéri ». Le Seigneur dit « Je le veux » pour combattre l'hérétique Photius. Il commande pour condamner Arius. Il touche le lépreux pour confondre Manès. Le manichéisme était une hérésie dans laquelle était tombé saint Augustin avant sa conversion, qui prétendait qu'il y avait deux dieux, le dieu du corps et le dieu de l'esprit, que le dieu du corps c'était le dieu mauvais, le dieu de l'esprit c'était le dieu bon, que la chair donc était mauvaise. Et notre Seigneur Jésus-Christ va montrer qu'il est maître justement de toutes ces hérésies, qu'il va convertir ces hérétiques ou les renvoyer de la barque s'ils ne veulent pas se convertir. C'était le cas par exemple d'Arius. Arius, Photius, même Manès, je pense, sont morts, hélas, dans l'hérésie. Arius, lui, allait jusqu'à nier la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, considérait que notre Seigneur Jésus-Christ était la première des créatures. Mais il n'avait pas vu la divinité qui se cache derrière. Il avait vu que la partie humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai qu'il y a entre Seigneur Jésus-Christ une partie créée, son corps et son âme sont créés. Mais Arius n'avait pas vu que derrière cette humanité, il y avait une divinité, que notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas simplement homme, il avait une double nature. une seule personnalité, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, mais une double nature, vraiment Dieu, vraiment homme. Donc notre Seigneur consacre, disent les Pères, le jour à opérer des miracles dans les villes et les nuits dans le saint exercice de la prière. Il enseignait ainsi aux prédicateurs qui tendent à la perfection de ne pas renoncer entièrement à la vie active par un trop grand amour de la vie contemplative, comme aussi à ne pas sacrifier les joies de la contemplation aux occupations absorbantes de la vie active, mais à puiser dans le calme de la contemplation les vérités qu'ils verseront ensuite dans les âmes lorsqu'ils travailleront au salut du prochain. Rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué avec les pères, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. D'abord se remplir, d'abord être réservoir avant d'être un canal. Malheur à celui qui est canal sans être réservoir. Malheur à celui qui veut donner aux autres sans être rempli lui-même de la grâce du bon Dieu. Il va se vider littéralement. Et quand on est canal avant d'être un réservoir, on tombe dans l'activisme, on tombe dans le volontarisme, on tombe dans toutes ces hérésies qui vont nous dessécher littéralement. Ici, notre Seigneur Jésus-Christ montre bien qu'il y a deux vies, une vie active et une vie contemplative. Il faut équilibrer les deux. Donc il faut remplir son réservoir dans la vie contemplative, mais il faut aussi la vie active. On ne remplit pas un réservoir simplement pour nous. Ce réservoir va déboucher sur un canal. Le canal est à la vie active, ce que le réservoir est à la vie contemplative. Et donc, il faut les deux. L'Église a toujours demandé, même aux plus grands contemplatifs, d'avoir toujours une partie de vie active. Prenez par exemple l'ordre religieux le plus sévère, à savoir les chartreux. Chartreux ont une vie contemplative très forte, mais ils ont en même temps une vie active. Ils ont un petit jardin, ils doivent l'entretenir. Ils ont un petit jardin, mais ils doivent couper du bois, par exemple, pour se maintenir en bonne santé physiquement parlant. Et ils sont obligés d'avoir un minimum d'action. Hein, il n'est pas bon d'avoir une contemplation pure. C'est dangereux. Il faut aussi faire travailler le corps. Donc, même dans les régimes les plus proches de la perfection, strictement parlant, les régimes très, très contemplatifs, il y a toujours une vie d'action. Saint Thomas d'Aquin explique très bien dans sa somme que la vie la plus parfaite n'est pas en soi la vie contemplative, mais un mélange entre la vie contemplative et la vie active. Vie contemplative pour se remplir et se donner aux autres. C'est la formule des dominicains. Contemplare, contemplata, alis, tradere. Contempler, ça c'est la contemplation, et donner aux autres le fruit. Livrer aux autres le fruit de sa contemplation, ça c'est la vie active. Donc plus un individu est obligé d'avoir une vie active, plus il doit contrebalancer les dangers de la vie active par la vie contemplative. Malheur à celui qui se lance dans la vie active sans vie contemplative, là c'est, il va droit dans le mur. Cette phrase est très belle. Donc il faut à la fois ne pas renoncer entièrement à la vie active par un trop grand amour de la vie contemplative et ne pas renoncer entièrement à la vie contemplative par un trop grand amour de la vie active. Il faut équilibrer les deux, ces deux choses. C'est là qu'intervient la vertu de prudence. Donc, allégoriquement, le lépreux représente le genre humain languissant et affaibli par la suite de ses péchés. Ça représente en fait le péché mortel. Il a besoin que Dieu, étendant la main, c'est-à-dire le Verbe de Dieu contractant une union étroite avec la nature humaine, les purifie de leurs anciennes erreurs et leur permettre d'offrir pour leur guérison leur corps comme une hostie vivante. Donc on voit bien ici que la lèpre représente le péché. La lèpre pourrit. Les lépreux sont des gens qui ont une chair qui se pourrit sur pied littéralement. C'est quelque chose d'épouvantable. C'est pour ça qu'ils étaient tellement provoqué une telle panique dans les gens qui étaient autour d'eux, parce que la lèpre était en même temps, au moins à certaines périodes de son incubation, la lèpre était extrêmement contagieuse. Et les lépreux devenaient des contaminés vivants, c'est-à-dire que leur chair pourrissait sur place, avec une odeur pestilentielle en plus. Alors passons à la page 43. Donc, il y a un long passage ici de l'Évangile, versets 20 à 32. Donc je rappelle où on en est. Donc les gens amènent un paralytique qui ne pouvait pas bouger évidemment parce qu'il était paralysé. Ils n'arrivent pas à le déposer devant Jésus à cause de la foule. Alors ils passent par le toit, ils enlèvent les tuiles du toit pour descendre notre Seigneur Jésus-Christ avec des cordes au milieu de l'assemblée. Et dès qu'il vit leur foi, Jésus dit « Homme, vos péchés vous sont remis ». Alors les scribes et les pharisiens se mirent à penser et à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci ? Quel est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut remettre les péchés ? Si ce n'est Dieu seul. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Que pensez-vous dans vos cœurs ? Lequel est plus facile de dire ? Vos péchés vous sont remis ou de dire, « Levez-vous et marchez ?» Et or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, je vous l'ordonne, dit-il au paralytique, levez-vous, prenez votre lit et allez dans votre maison. Et aussitôt, se levant devant eux, il prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Et la stupeur les saisit tous et ils glorifiaient Dieu. Et ils furent remplis de crainte et ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses prodigieuses. Après cela, Jésus sortit et vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des impôts, et il lui dit, « Suivez-moi. » De Lévi, c'est saint Matthieu. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi, lui fit un grand festin dans sa maison. Il y avait une foule nombreuse de publicains et d'autres personnes qui étaient à table avec eux. Mais les pharisiens, leurs scribes murmuraient, disaient à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Et Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la pénitence. » On voit très bien ici que tout le monde ne va pas répondre. Notre Seigneur Jésus-Christ souhaite avoir tous les hommes au paradis, mais un certain nombre d'entre eux qui vont refuser même la compréhension la plus élémentaire de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ par ses miracles. Donc on voit tous ces apôtres qui se convertissent immédiatement, Saint-Pierre, ici Saint-Matthieu. Par contre, dit le texte sacré, les pharisiens et les scribes murmuraient. Donc plus ceux qui cherchent Dieu voient des miracles, plus ils se convertissent facilement. Au contraire, plus les pharisiens et les scribes voient les miracles, moins ils ont envie de se convertir et plus ils s'éloignent de Dieu. Donc, les mêmes causes vont provoquer des conséquences complètement différentes. Les mêmes miracles vont rapprocher certaines personnes de Dieu et au contraire éloigner d'autres personnes de Dieu. C'est quelque chose de très difficilement compréhensible. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères sur ce miracle en bas de la page 43. On peut voir dans ce paralytique une image de l'âme privée de ses membres, c'est-à-dire de ses opérations, cherchant Jésus-Christ, c'est-à-dire la volonté du Verbe de Dieu. Elle ne peut arriver jusqu'à lui empêchée qu'elle est par la foule tumultueuse de ses pensées. Il faut qu'elle découvre le toit, c'est-à-dire le voile des Écritures, pour arriver ainsi à la connaissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire pour descendre pieusement jusqu'à l'humilité de la foi. Donc le paralytique, c'est celui qui ne peut plus s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ par ses propres forces. Donc la folle du logis a tout mangé chez lui, l'imagination, la foule tumultueuse des pensées du monde moderne, les trois concupiscences, tout ça complètement détruit son intelligence, sa volonté. Il n'est incapable de se déplacer par lui-même pour aller vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il faut que quelqu'un d'autre le prenne, le monte sur le toit et le descende pieusement jusqu'à l'humilité de la foi. Il faut qu'il accepte de se laisser aider par quelqu'un. Il ne peut pas y arriver par lui-même, donc il va être porté par des gens qui vont le faire rentrer, le déposer devant Jésus à partir du toit. Ce n'est pas sans dessein que la maison où se trouve Jésus nous est présentée comme couverte de tuiles, parce que sous le voile grossier de la lettre, nous trouvons la vertu de la grâce spirituelle. C'est qu'il faut commencer par enlever les choses secondaires, les tuiles, pour pouvoir trouver l'ouverture et descendre le paralytique près de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut ôter tout ce qui encombre l'âme, qui n'a rien à voir avec notre Seigneur Jésus-Christ, pour laisser la place dans mon âme pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse y venir. Il faut ainsi aussi, disent les pères, que l'homme se prête facilement à tous les mouvements qu'on lui imprime et qu'il se laisse élever, abaisser, pour être placé devant Jésus et être rendu digne de ses regards, car le Seigneur abaisse ses regards sur les humbles. Donc, il faut non seulement un esprit d'obéissance, mais il faut aussi l'esprit d'humilité. Et l'humilité et l'obéissance sont tellement liés qu'il ne peut pas y avoir d'obéissance sans humilité et d'humilité sans obéissance. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ voit l'humilité de ce paralytique qui accepte d'être aidé pour être déposé au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Il voit aussi la foi de ceux qui, qui dégage les tuiles du toit pour ouvrir le toit et permettre aux paralytiques de descendre vers notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ abaisse ses regards sur les humbles. Ceux donc qui déposent le paralytique peuvent représenter les vrais docteurs de l'Église, et le lit sur lequel il est déposé signifie que c'est pendant que l'homme est revêtu d'un corps mortel qu'il doit chercher à connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut comprendre, c'est pas toujours très clair, les textes des pères de l'Église sont parfois assez confus, surtout quand tous les pères d'Église ne disent pas la même chose sur le sujet. Mais ce qu'il faut comprendre là, c'est que celui qui prend sur lui de porter le paralytique qui est incapable d'aller voir notre Seigneur Jésus-Christ par ses propres forces, de le monter sur le toit et de l'amener à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui sert d'intermédiaire pour ramener les âmes au Christ, à savoir l'évêque, à savoir le docteur, le prêtre en général. Le prêtre, donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Constatant qu'il a devant lui un paralytique, incapable de se bouger par lui-même, il va devoir le faire entrer dans l'église pour le déposer au pied de Jésus. Et s'il ne peut pas arriver à le déposer au pied de Jésus par la porte d'entrée parce qu'il y a trop de monde, trop d'obstacles, alors il faut qu'il monte sur le toit avec le malade, enlève les tuiles et descende le malade pour le déposer au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le rôle du prêtre, c'est ce que doit faire le prêtre à longueur de journée. Il ne faut pas que l'infirmité de l'âme se repose davantage dans les joies charnelles comme sur un lit, mais au contraire qu'elle réprime les affections de la chair et se dirige vers sa maison, c'est-à-dire vers le repos mystérieux de son cœur. Alors, que va dire notre Seigneur Jésus-Christ après avoir guéri ce paralytique? D'abord, il faut bien remarquer, pour bien montrer qu'il est Dieu, qui cherche d'abord à sauver les âmes avant de sauver les corps, il va dire « Homme, vos péchés vous sont remis. » Et les hommes qui l'entourent ne comprennent pas. Qui peut remettre les péchés si ce n'est Dieu seul? Alors notre Seigneur Jésus-Christ va leur expliquer qu'est-ce qui est plus facile de dire. « Levez-vous et marchez. Vous prenez votre lit et allez dans votre maison. » Eh bien, je vais vous l'ordonner. « Levez-vous, prenez votre lit et allez dans votre maison. » Donc il montre qu'il a pouvoir et sur le corps et sur les âmes. On voit le pouvoir des corps, sur les corps on ne voit pas le pouvoir sur les âmes. Regagnez sa maison, levez-vous, prenez votre lit, allez dans votre maison. Regagnez sa maison, c'est retourner à l'état de grâce. Ici c'est retourner au paradis en fait. C'est en effet la véritable maison qui fut la première habitation de l'homme qu'il a perdue contre toute justice par la fraude du démon. Il faut donc que cette habitation il soit rendu à l'avènement de celui qui est venu pour détruire la fraude du démon et rendre à la justice tous ses droits. Donc, qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Il le ramène dans sa maison. La maison du chrétien, c'est l'église catholique. J'ai perdu le contact avec notre Seigneur Jésus-Christ par le péché. Le bon Dieu me pardonne. Homme, vos péchés vous sont remis. Et à ce moment-là, il peut me dire, levez-vous maintenant que vous êtes guéri, prenez votre lit, retournez dans votre maison. C'est-à-dire retournez dans l'église catholique que vous avez eu le malheur de perdre ou de quitter. Alors, il est évident que pour pouvoir arriver au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut accepter d'être aidé. Et ici, c'est le cas de ce malade qui accepte l'aide de ses amis qui l'amènent au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui dédaigne la pénitence, disent les pères, renonce à la grâce. Si je n'accepte pas de me faire aider, si je n'accepte pas de faire pénitence, vous me préparez au travail de la grâce dans mon âme, eh bien, je ne peux pas obtenir quoi que ce soit de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 33 à 39. Donc on va terminer aujourd'hui, je pense, le chapitre 5 qui est relativement simple. Alors ils lui dirent, pourquoi les disciples de Jean font-ils souvent des jeûnes et des prières, de même que ceux des pharisiens, tandis que les vôtres mangent et boivent? Jésus leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé. Et alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur proposa aussi cette comparaison, personne ne met une pièce d'un vêtement neuf à un vieux vêtement. Autrement, on déchire le neuf et la pièce du vêtement neuf ne convient point au vieux vêtement. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau rompra les outres et il se répandra et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves et ainsi les deux se conservent. Et personne Buvant du vin vieux, n'en veut aussitôt de nouveau, car il est dit le vin vieux est meilleur. Donc ceux qui ont trouvé notre Seigneur Jésus-Christ peuvent jouir de sa présence. Mais quand on est loin de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut le jeûne et la pénitence. Il faut faire pénitence pour retrouver la grâce du bon Dieu. Sans pénitence, on ne peut rien retrouver. Donc il faut l'aumône, le jeûne et la prière. La prière contre l'orgueil, le jeûne contre la concupiscence de la chair et l'aumône contre la concupiscence des yeux. Il faut l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Il y a donc deux sortes de jeûnes, disent les pères, le jeûne de l'affliction, pour obtenir de Dieu le pardon de ses péchés, et le jeûne de la joie, où l'âme est d'autant plus moins sensible au plaisir de la chair qu'elle en jouit en plus grande abondance, des délices spirituels. C'est un terme un peu bizarre, le jeûne de la joie. C'est-à-dire qu'on s'est coupé des choses corporelles et donc on peut vraiment s'occuper des choses spirituelles. Nous ne devons pas mêler les actes du vieil homme avec ceux du nouveau. Donc les apôtres étaient déjà devenus des outres neuves lorsqu'après l'ascension du Seigneur, l'Esprit Saint va les renouveler en leur inspirant le désir de ces divines consolations, l'esprit de prière et l'esprit d'espérance. L'esprit de prière et d'espérance. Les bonnes œuvres que nous faisons en dehors et qui font luire notre lumière devant les hommes sont donc le vêtement, la ferveur de la foi, de l'espérance et de la charité comme le vin. Donc le vin, symbole de la grâce. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ dit « Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves » et ainsi les deux se conservent. Donc, personne buvant du vin vieux n'en veut aussitôt de nouveau car il dit « Le vieux est meilleur ». Eh bien, vous voyez, ce vin représente le travail de la grâce. De même que la grappe se transforme par la fermentation, prend de l'alcool et devient un vin succulent de la même façon, la grâce du bon Dieu va travailler sur une âme, transformer cette âme, la faire fermenter en quelque sorte pour qu'elle trouve le contact avec notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce sanctifiante. Donc on peut dire encore, disent les pères, que les vieilles outres sont les scribes et les pharisiens, tandis que le fragment de drap neuf et le vin nouveau sont les préceptes de l'Évangile. Ce vin, c'est le Nouveau Testament, que les outres anciennes, vieillies par leur incrédulité, ne peuvent contenir. Donc celui qui ne veut pas prendre les outres neuves, ne veut pas mettre du vin nouveau dans des outres neuves, c'est celui qui se cramponne aux vieilles outres, c'est-à-dire à l'Ancien Testament, qui refuse l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme les Juifs, malheureusement, ont refusé l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ et sont toujours en train de l'attendre alors qu'il est déjà venu. On ne doit donc point donner les sacrements des mystères nouveaux à une âme qui n'est pas renouvelée, qui persévère encore dans son ancienne malice, c'est-à-dire la malice du péché. C'est ceux encore qui veulent mêler la pratique du christianisme au précepte de la loi, mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. Donc il ne faut pas mélanger les vieilles outres, c'est-à-dire le judaïsme, et l'outre neuve, c'est-à-dire le christianisme, le catholicisme. En disant « le vieux est meilleur », notre Seigneur veut parler des Juifs qui pénétraient de la saveur de la vie ancienne, n'avaient que du dégoût pour les préceptes de la loi de la grâce, et qui, souillés par les traditions de leurs ancêtres, étaient incapables de goûter la douceur des enseignements spirituels. Donc ils restent avec leurs anciennes coutumes, en ne comprenant pas que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa présence sur la terre, le Messie qui était attendu depuis des milliers d'années, va rendre caduque la religion de l'Ancien Testament. Et donc il va chercher un autre peuple élu qui accepte justement cette présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le drame des Juifs, c'est qu'ils attendent toujours notre Seigneur Jésus-Christ alors qu'il est déjà venu. Cela est expliqué aussi par le fait que nous devons, lorsque nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire très attention justement à nous couper de la vie passée. On ne doit pas revenir au vomi du passé. Alors nous avons terminé le chapitre 5, donc je ne pensais pas qu'il termine aujourd'hui. Il y a certains passages, certains chapitres, vous verrez, lesquels j'ai moins trouvé de commentaires des pères de l'Église. Les chapitres sont très inégaux. Il y en a sur lesquels les pères de l'Église ont beaucoup plus communiqué, et d'autres sur lesquels ils n'ont pas dit grand-chose. Et sur ce chapitre 5, je n'ai pas trouvé énormément de choses. C'est pour ça que les textes que j'ai mis ne sont pas très nombreux pour commenter ces textes, les textes sacrés. Bon, enfin, on fait un petit peu ce qu'on peut. Rien ne vous empêche, encore une fois, puisqu'on vient de terminer un chapitre, rien ne vous empêche, je vous recommande beaucoup de revenir, relisez le texte de chapitre 5 et lisez le commentaire. Et même pour ceux qui ont un petit peu de temps, relisez, reprenez. Il faut revenir constamment à la grandeur de l'Écriture sainte, donc relisez ces 5 premiers chapitres. Et si vous avez un petit peu de temps, prenez ça comme lecture spirituelle, relisez ces 44 premières pages du commentaire des Pères de l'Église, donc, que j'ai mis sous forme simple, simplifiée, des 5 premiers chapitres de Saint-Luc. Donc nous allons terminer par une prière. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Jérôme, priez pour nous. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.